Bonjour à toutes et à tous, c'est JD, je suis de retour pour un quatrième épisode de la série sur le Parle la tête d'or, sur l'histoire du parc. Je sais pas pourquoi j'ai commencé comme ça. Savoir que voilà, cette série, je la réalise en coproduction avec les archives de la ville de Lyon, c'est hyper cool. Dans cet épisode, on va voir l'histoire du zoo, en gros des animaux hein, du parc, qu'ils soient en cage ou pas, et surtout qu'on va aller à la rencontre du responsable pédagogique des espaces verts de la ville de Lyon pour parler de ce que faisaient les Lyonnais à l'époque, au 18e siècle. C'est pas vrai, si vous avez suivi, c'était le 19e. Voilà, il y a personne qui suit dans cette assemblée. Voilà, en vrai, c'était voir depuis le début qu'est-ce que venaient faire les Lyonnais au parc, qu'est-ce qu'on a mis en place niveau divertissement. On va aussi parler de l'assassinat du président de la République, alors qu'il n'a pas eu lieu hein, au parc, mais c'était parce qu'il y avait l'exposition universelle à Lyon dans le parc, donc on va parler de tout ça. Et surtout, ce responsable pédagogique, il va nous montrer ce qui date de la création du parc. Donc on va aller voir des arbres, des éléments qui ont 170 ans et qu'on peut toujours voir aujourd'hui. Ça va être trop cool. Allez, c'est parti sur les traces de l'histoire.
Comment est mort Napoléon ?
Il est mort guillotiné, comme Bonaparte. Bah, comme tous les rois, en fait.
Attendez, c'est lesquels les Chinois qui étaient alliés aux nazis ?
Les Japonais ?
Les Japonais, c'est ça. Autant pour moi. J'avais un embryon de piste, mais non. Si nous avons affaire à des Chinois de Chine, ça ne marche plus.
Allez, c'est le moment où on va parler des animaux. Donc on va au zoo. On est passé tout à l'heure devant, ou même en plein milieu, même en vrai. Il est juste à côté. Hein. De toute façon, c'est impossible de le manquer. Régulièrement, il y a les animaux qui s'énervent, donc vous les entendez dans tout le parc, c'est facile de le trouver. Le zoo, c'est un élément du parc qui a beaucoup évolué dans le temps. Hein. À savoir que, à la base, ce n'était pas un zoo, mais une ferme qui avait une visée pédagogique. Et surtout, utilitaire. L'objectif était de faire voir aux enfants des villes quels étaient les animaux de la campagne. C'est pour ça qu'on trouvait au début que des animaux domestiques, des vaches, poules, faisans, échassiers et autres moutons. Le préfet Weiss décide en effet que si l'on intègre des animaux dans le parc, il faut que ça ait du sens. Nous n'élèverons dans le parc que des animaux utiles ou des animaux propres à l'ornement des parcs et parfaitement acclimatés, disait-il. Plutôt moderne dans sa façon de penser, le petit Claude Marius. Ça fait plaisir. En se promenant dans le parc en 1860, on admire donc les majestueux cygnes, canards, flamants roses et pélicans. Bon, c'est vrai que les deux derniers, c'était pas des animaux de Lyon, mais bon, ils étaient acclimatés. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Mais c'était quand même juste à la marge. De leur côté, les cerfs, moutons, daims, vaches deviennent agents d'entretien du parc en s'occupant en toute liberté de la tonte des vastes pelouses. Et oui, ils n'étaient pas parqués. Les vaches sont aussi utilisées pour produire du lait de qualité, qui est une réponse à une problématique d'hygiène de l'époque. Et ouais, on a certaines lyonnaises qui peinent à conserver leur lait correctement et fait que la mortalité infantile est assez haute à cause de ce mauvais lait. La création d'une laiterie municipale permet d'y remédier grâce à du bon lait made in Lyon qui sera vendu place Bellecour. Et oui, on pouvait acheter du lait place Bellecour. Allons bon. Il y a des voitures en plein milieu du parc. Que c'est que cette connerie ? Ah, c'est la police. Et ce sont la police ! Pendant longtemps, les seuls animaux sauvages seront seulement des petits oursons qui seront accueillis en 1865 au lendemain de la mort du préfet Weiss, qui s'y serait probablement opposé. Déjà à l'époque, on s'enquiert de leur enfermement en cage puisqu'on lit un témoignage de Gunn dans le Progrès Illustré qui dit que ça lui tourne le cœur rien que de les voir enfermés en cage. Problème pour ces pauvres animaux, à partir de 1870, les années de mauvais temps et d'hiver particulièrement rudes font que quasi tous meurent. Ce n'est qu'à la belle époque que le jardin zoologique sera créé. L'époque est à la découverte, à l'innovation sans limite, à la colonisation, à l'exotisme, à la démesure. Et donc on commence à accueillir des girafes, des crocodiles, des singes, des perroquets, etc., etc. Cependant, si on prend du recul, c'est vraiment dans les années 1960 où c'est vraiment devenu n'importe quoi avec l'arrivée de lions, panthères et même d'éléphants. Quoi. Voilà, animaux tout à fait adaptés au climat lyonnais. Vous l'avez compris, la construction du parc de la Tête d'Or, ça a été un sacré chantier. Mais ça valait le coup. Imaginez les frères Buller comme ils auraient été comme des dingues de voir les arbrisseaux qu'ils ont plantés devenir maintenant de grands arbres centenaires dont les cimes chatouillent les nuages. Et voir aussi toute cette faune et flore s'épanouir dans ces grandes étendues vertes. Et dedans, je compte aussi les Homo sapiens. Les humains, c'est nous ! Et tout ça, c'est dû aux municipalités qui, depuis maintenant 165 ans, prennent soin de ce parc qui a pourtant bien évolué dans le temps. Et pour parler de tout ça, je vais rejoindre un expert en la matière, c'est Fabien Nutti, responsable pédagogique aux espaces verts de la ville de Lyon. Bonjour Fabien.
Bonjour.
Alors, ma première question c'est, historiquement au 19e siècle, qu'est-ce que venaient faire les Lyonnais au parc de la Tête d'Or ?
Le premier rôle du parc de la Tête d'Or vis-à-vis des Lyonnais, c'est de permettre de respirer. Tout simplement d'avoir un endroit un petit peu vert qui leur permettait de sortir de leurs usines avec toute la pollution qui allait avec. Premier point. Et puis le deuxième point, c'est que beaucoup de gens quittent la campagne pour s'installer à la ville. Donc étaient nés à la campagne, avaient vécu leur jeunesse à la campagne, voire leur adolescence. Et ensuite, jeunes adultes partaient tout simplement travailler en ville parce que ils n'avaient pas le choix. Hein. C'est ce qu'on appelle une migration. Et c'était leur permettre un petit peu le dimanche, le seul jour où ils ne travaillaient pas, parce que c'était le jour du Seigneur, évidemment, de pouvoir retrouver un petit peu l'ambiance l'ambiance de leur jeunesse et de leur adolescence qu'ils avaient perdu en migrant à la ville. Et puis dans le côté également hygiénisme à la fois d'un point de vue santé, il y avait aussi l'hygiénisme social. C'est-à-dire que c'est ce qu'expliquera très bien dans son roman un petit peu plus tard Zola et avec l'Assommoir, ça permettait tout simplement aux ouvriers le jour chômé du dimanche d'éviter d'aller tout simplement dans les bouges comme on les appelait à l'époque pour un petit peu trop s'attarder sur la dive bouteille, voilà, entre autres. Donc il y avait ça, mais il y avait aussi un cloisonnement social très important. D'ailleurs, ça se voit, là, on est en train de marcher sur les allées du parc.
Au sein même du parc ?
Au sein même du parc, oui. C'est-à-dire que vous remarquez que vous avez des allées centrales, et avec presque de chaque côté, donc, ce qu'on appelle des contre-allées. Et donc, les allées centrales, qui sont très larges, permettaient aussi à la bourgeoisie de montrer sa puissance en allant au parc en calèche. Surtout pas à pied, en calèche, alors que j'ai presque envie de dire que leurs ouvriers, eux, se contentaient d'être sur les contre-allées et admirer leur patron passer, en fait. Hein. C'était un petit peu ça. Alors, ça peut paraître choquant comme ça aujourd'hui, mais c'était vraiment c'était quelque chose d'établi complètement à l'époque du 19e siècle et de cette révolution industrielle.
Est-ce qu'il y avait des événements majeurs au parc ? Je pense peut-être aux Vogues lyonnaises, à l'exposition universelle aussi qui est connue ?
Surtout l'exposition universelle, hein, qui est vraiment un événement très très important pour l'histoire du parc, à plus d'un titre, puisque déjà il y a encore des éléments qui sont conservés et qui datent d'époque, même si la plupart ont disparu aujourd'hui. C'est un élément important aussi pour l'histoire de France, parce que le président Sadi Carnot, au retour de l'inauguration de cet événement, se fait tuer en sortant du restaurant, je crois, situé sur la presqu'île. Et puis surtout vis-à-vis du parc, ça a permis l'évolution du zoo. Pourquoi ? Parce que faut s'imaginer donc l'exposition universelle qui était essentiellement basée sur une gigantesque coupole située pas très très loin de la porte des Enfants du Rhône, qui faisait 55 000 mètres carrés, et qui présentait donc évidemment des éléments à la fois culturels, faunistiques, floristiques de tous les pays, mais essentiellement aussi, et c'est ça, c'était le but recherché, des éléments qui venaient des nouvelles colonies que l'État français républicain de l'époque, donc en 1994, la Troisième République, était en train de créer. On était en pleine période de la colonisation. Et donc ça, ça a un succès fou auprès des Lyonnais parce que la télévision n'existait pas. Ils avaient entendu parler dans les journaux que dans ces nouvelles colonies, que ce soit l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, que ce soit la Cochinchine, il y avait des animaux exotiques tout à fait intéressants et qui, quelque part, les fascinaient. Ils ont eu la possibilité, avec cette exposition universelle, de les voir en vrai. Et ça a eu un succès tout à fait monstrueux et ça entraînera justement l'évolution du zoo qui était au départ donc plutôt une ferme pédagogique avec quelques animaux exotiques mais pas très nombreux, de prendre un virage complet et de se, entre guillemets, de se spécialiser justement dans le fait de montrer des animaux exotiques, notamment beaucoup issus de ces colonies. Sachant que c'était un moyen aussi politique à l'époque, ces expositions universelles. Il ne faut pas oublier que le vrai titre de cette exposition universelle, c'est en fait exposition universelle et coloniale. Et souvent, les gens, le côté et colonial disparaît aujourd'hui lorsqu'on en parle. C'est pourtant quelque chose de très très important parce que quelque part, c'était l'élément central de communication de l'État républicain de l'époque pour justifier justement le fait qu'ils mettent en place une politique de colonisation et de conquête de territoires dans les pays exotiques. Évidemment, aujourd'hui, à juste titre, on sait que la colonisation, ça a été aussi la captation des matières premières de ces pays-là. Mais avant, on est vraiment au tout début, avant de pouvoir capter ces matières premières, il fallait installer toutes les infrastructures, les bâtiments administratifs, créer les emplois, etc. etc. Et ça coûtait les yeux de la tête. Et en fait, à l'époque, il y avait quand même pas mal de gens en France qui étaient contre ça parce que ça coûtait cher au niveau des impôts. Donc en fait, le fait de développer ces expositions universelles et coloniales, c'était une manière de faire passer la pilule auprès du grand public, que ce soit à Paris, à Lyon, etc.
Quels sont les bâtiments qui ont été montés pour l'exposition coloniale et qu'on retrouve encore aujourd'hui ?
Alors, en fait, il n'y en a plus qu'un seul. Donc, c'est le bâtiment des crocodiles. Okay. Le bâtiment des crocodiles, ça se voit très bien, avec notamment là, les arcs outrepassés qui font invariablement penser à l'architecture musulmane, notamment du Maghreb.
Ouais. Hein.
Donc, on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur l'exposition universelle et coloniale.
Ouais.
Voilà, tout simplement. Après, ce qu'il en reste aussi, c'est des noms de lieux. Alors le nom de lieu le plus connu, c'est la grande pelouse du parc de la Tête d'Or, qui fait 6 hectares, et qui s'appelle la pelouse de la Coupole. Je pense que vous pouvez questionner beaucoup de Lyonnais, il y en a très peu qui savent pourquoi elle s'appelle comme ça. Tout simplement, c'était à cet endroit-là qu'il y avait cette gigantesque coupole de 55 000 mètres carrés. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il leur reste ? Elle a été démontée à la fin de l'expo. Il reste tout simplement le nom de cette pelouse.
Ok.
Et puis,
D'accord, c'est quand on rentre par la porte des Enfants du Rhône, c'est la grande pelouse qui est sur la droite.
Tout à fait. Et qui est presque en symétrie avec le lac.
Ouais.
Avec la voie du milieu qui fait un petit peu la symétrie entre les deux, une sorte de lac vert d'un côté et lac bleu de l'autre. Ouais. C'était assez bien recherché de la part de Denis Buller, qui était l'architecte principal des deux frères du parc de Tête d'Or.
Ouais.
Donc il y a le vélodrome. Alors, par contre, le vélodrome, tel qu'il est là, il a beaucoup changé d'aspect parce qu'au départ, il a été aménagé exprès pour l'exposition en bois. Et ensuite, il a été complètement démantelé en 1936 par Édouard Herriot et recréé en dur, c'est-à-dire à partir essentiellement de mâche-pierre et de béton. Pourquoi Édouard Herriot a profité pour le refaire ? Tout simplement parce qu'il était dans un très mauvais état, et en plus, en 1936, on est en pleine dépression, faut pas l'oublier, et beaucoup d'entreprises, notamment de BTP, étaient à l'époque au chômage faute de commandes. Et donc Édouard Herriot, il a fait un petit peu son Roosevelt, c'est-à-dire qu'il a sorti des subsides publics pour pouvoir un petit peu réamorcer la pompe, notamment vis-à-vis de ces entreprises de BTP, et leur permettre d'avoir une commande et pouvoir garder une partie de leurs ouvriers.
Vous parliez du zoo tout à l'heure. Aujourd'hui, ça reste encore une attraction majeure pour les gens qui viennent au parc, notamment les enfants.
Oui.
Comment il est considéré, ce zoo, aujourd'hui, de votre côté, vous ?
Il est essentiellement considéré pour nous comme un établissement de conservation d'espèces en voie d'extinction et de disparition dans leur pays d'origine. Il y a trois grandes vocations, mais je pense que mes collègues du jardin zoologique en parleront bien mieux que moi. Donc, il y a le côté préservation. Il y a le côté éducation, parce que évidemment, on profite de la présence de ces animaux exotiques pour expliquer aux enfants d'ici, tout simplement, la faune exotique, les différents climats et plein d'autres choses. Mais il y a aussi, faut pas l'oublier non plus, la vocation d'origine des eaux et qui perdure encore aujourd'hui, c'est d'ailleurs celle de donner à voir, tout simplement. Je dirais le côté dépaysement, on va dire ça comme ça aussi.
Ok. Quels éléments, du coup, d'origine de la part des frabulaires, il existe encore?
Il reste beaucoup de choses, beaucoup d'éléments paysagers. Et je pense que c'est même la chose principale qui reste des frabulaires. Si on prend par exemple vers la porte des Enfants du Rhône, puisqu'on est là, vous voyez cette grande ceinture de conifères là, qui cache la cité internationale. C'était le reste en fait de la ceinture de conifères qui faisait tout le tour du parc de Tête d'Or pour pouvoir isoler le parc de Tête d'Or du reste de la ville. Et qui permettait, comme je vous avais dit en introduction, à ces néo-lyonnais ruraux de se retrouver comme s'ils étaient à la campagne.
Okay.
Donc c'était une barrière phonique, bien sûr, mais aussi c'était une barrière visuelle. Parce que comme c'est constitué de conifères, donc feuillage toute l'année, persistant,
Et
donc
très dense,
ouais. Donc totalement isolé du reste de la ville. Ce qui reste également, alors là on est sur la petite Suisse, Donc la petite Suisse, elle a quasiment pas bougé si vous reprenez les plans d'origine des frères Buller.
Vous pouvez expliquer d'où est-ce qu'elle est, la petite Suisse, dans le plan du Parc Tête d'Or?
Alors c'est ce qui donne directement sur la porte des Enfants du Rhône et qui donc emmène le visiteur en direction de la roseraie le long de la cité internationale. Donc la petite Suisse, c'est un petit clin d'œil qu'ils se sont fait, Eugène et Denis Buller, parce qu'ils étaient d'origine suisse eux-mêmes. Et donc ils se sont fait un petit clin d'œil perso avec, donc là on voit le talus planté en conifères qui symbolise un petit peu la végétation qu'on va trouver.
Peut-être l'avoir d'en face le lac.
Ouais, tout à fait.
Je sais pas si on voit aussi.
Oui, on la voit,
ouais, okay.
Sans problème. Pas en entier, mais on la voit. Donc vous avez ce talus là qui nous cache la cité internationale et qui symbolise un peu la végétation qu'on va trouver sur les montagnes des Alpes, tout simplement, avec beaucoup de censé être des sapins. Il n'y a pas que des sapins, il y a aussi du cèdre, du métasequoia, etc. Bon, ça vous trouvez pas ça dans les montagnes suisses, évidemment, mais bon, enfin voilà, c'est tout est symbolique, hein,
bien sûr.
Ensuite, vous arrivez sur une prairie qui est censée, petit clin d'œil aussi, être une prairie d'alpage, et ensuite vous tombez sur des massifs d'arbres feuillus au bord de l'eau qui sont censés symboliser un peu la végétation dite un peu de ripisive qu'on va trouver au bord du lac Léman. Et c'est pour ça que toute cette partie du parc de Tête d'Or s'appelle comme ça.
La petite Suisse.
La petite Suisse.
Donc ça on peut dire que c'est le truc qui n'a pas bougé depuis la création du parc.
Absolument pas.
Donc tous les arbres qui sont sur la gauche du parc, ils ont 170 ans quoi.
C'est ça, à peu près.
Eh ben merci beaucoup Fabien, c'était hyper intéressant.
Mais merci à vous.
Ok, donc maintenant quand vous irez au parc, vous saurez quels sont les arbres et les bâtiments les plus vieux du parc. C'est quand même cool, vous pourrez expliquer ça aux gones et aux fenotes, l'histoire et la véritable visée d'un zoo comme on a aujourd'hui. Mais les gones et les fenotes, quand ils viennent au parc, c'est aussi pour voir un personnage iconique de Lyon. Mais si, vous savez qui c'est? C'est Guignol! Mais oui, cette fameuse petite marionnette connue au niveau mondial, et ben devinez quoi? On va discuter avec lui dans le prochain épisode. On va rentrer dans son univers en discutant avec la plus vieille famille encore en exercice qui fait du théâtre de Guignol. Et oui, c'est dans le parc que ça se passe. Et cet épisode, il est donc terminé. J'espère qu'il vous a plu. Il a été réalisé en coproduction avec les archives de la ville de Lyon. N'hésitez pas à mettre des étoiles sur les plateformes de streaming, ça nous fera hyper plaisir. Et surtout, ça permet de faire connaître le podcast à plein d'autres gens. N'hésitez pas à me suivre sur Insta à hello.jd, hello comme hello en anglais. Je fais des petites vidéos sur l'histoire de Lyon régulièrement, je poste plein de photos anciennes, on rigole bien, venez voir, c'est cool. En tout cas, merci de votre écoute, ça fait trop plaisir. Et à très vite pour marcher ensemble sur les traces de l'histoire.